le dernier rendez-vous géographique et littéraire de la saison. En compagnie d'Antoine Logini, notre bénévole qui aime se promener dans les pages et les paysages. Bonjour Antoine.
Bonjour Véronique.
Alors, tu vis à Douarnenez et tu y as un chemin récurrent?
Et oui, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs à la première émission. C'est pour ça, comme on est à la dernière de cette saison, je boucle le chemin et je repasse en effet par mon chemin des Plomards. Alors en effet, cette fois-ci, pour terminer, j'ai titré ce temps « Par les chemins, en marchant, en flânant, éloge de la promenade ». Donc c'est un éloge de la promenade que l'on va faire. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je vis fortement au quotidien, puisque je parcours en toute saison, 2 à 3 fois par semaine, un même chemin, celui des Plomards, sur le fond de la baie de Douarnenez.
Il vaut le coup.
Il vaut le coup, vraiment. J'incite tout le monde à y aller par le petit hameau des Plomards et puis ensuite vers la prairie et puis le chemin creux. Et à chaque fois, c'est le même bonheur, le même ravissement. Tout s'apaise. En fait, c'est un chemin qui n'est pas long. Il fait pour moi 1 kilomètre à peu près. Donc, c'est vraiment pas un exploit. Mais pourtant, je ne m'en lasse jamais de ce parcours et je goûte à chaque fois tout simplement la beauté du monde, des arbres, des haies, des oiseaux, de l'océan. Et ces marches quotidiennes qui tiennent plus de la promenade que de la randonnée, très nettement, sont ma façon en fait, d'habiter le territoire où je vis. Et alors pour terminer cette série d'émissions, j'avais envie de partager cette idée-là, de faire une sorte d'éloge de la flânerie, en fait, de la déambulation lente et tranquille et sans but précis. Et là, je me raccroche aussi à Georges Perros, le poète, grand poète, grand écrivain de Douarnenez, qui a vécu à Douarnenez. Et qui, alors je ne sais plus si je l'ai trouvé dans un de ses textes ou s'il l'a dit lors d'un entretien, mais il a dit « prendre l'air était notre métier ». Et ça, je trouve que c'est une belle profession de foi, un beau métier que prendre l'air, une belle raison sociale. Et voilà, donc cet éloge, je vais le faire au travers de quelques textes d'écrivains marcheurs plutôt que d'écrivains voyageurs. Dans une autre émission, on avait parlé de Bouvier, par exemple, grand écrivain voyageur. Là, ça va être peut-être plus modeste.
On va pas loin, mais on y va.
Voilà. Et alors, pour commencer, pour préciser un peu cette idée de l'importance de ces promenades de proximité autour de soi, qui sont souvent jugées un peu ringardes, qualifiées de promenades du dimanche, ou lorsqu'on est doublé par des joggeurs qui vont à fond, ou par des tenants de la marche sportive, on se sent un peu petit, bien modeste, avec notre petite marche lente, un peu, pas ridicule, mais enfin, peut-être un peu vieux parfois. Mais je vais laisser la parole justement à un ethnologue du monde rural, Martin de la Soudière, qui a en particulier travaillé sur les plateaux de Margeride. J'avais lu des textes sur l'émission sur l'hiver, il a écrit sur l'hiver.
Massif central.
Voilà, sur le Massif central. Et son dernier livre, paru en 2019, a un titre, moi, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle « Arpenter le paysage ». Et dans ce livre, au début, il dresse un peu un tableau des écrivains marcheurs et voyageurs et il explique pourquoi il a choisi les uns, ceux qui se promènent, plutôt que les autres, ceux qui font des marches long cours. Donc voilà, Martin de la Soudière. Au sein d'une très vaste famille, de ceux qu'on pourrait provisoirement nommer de façon schématique les écrivains marcheurs, on pourrait distinguer des mouvances. Il y aurait d'abord ceux qui en tiennent pour le pèlerinage. J'entends par là randonneurs ou baroudeurs, les adeptes des très longs parcours généralement effectués à pied, de traverser des jours, voire des semaines durant, de région en région, avec toujours en ligne de mire un objectif défini avant même leur départ, un but précis, un horizon, voire un challenge, un exploit. Atteindre une basilique, arriver en bord de mer, remonter un fleuve, franchir une frontière, un massif ou une chaîne de montagnes. Depuis Robert Louis Stevenson, il y a bien longtemps, puis plus récemment Jacques Lacarrière, laïcs ou croyants, ces écrivains pèlerins, ceux qu'on appelle écrivains voyageurs, se font aujourd'hui de plus en plus nombreux. L'époque et l'ère du temps balisent leurs itinéraires. Chemin de Compostelle, de Stevenson, de Canterbury, de plus en plus fréquentés, inventoriés, voire patrimonialisés. En regard et parfois en opposition avec eux, nous trouverions les adeptes de la déambulation. Leurs pérégrinations sont brèves. Ce sont, si l'on veut, des pèlerins, mais des pèlerins d'un jour. Ils ressemblent un peu à ceux qui participent aux processions en Bretagne. Les pardons ou troménies de Troménès, c'est-à-dire le tour de la montagne. Ce sont des marcheurs, mais épisodiques. Leur façon de parcourir leur territoire et d'occuper l'espace s'avère très ponctuelle, très locale. Mais la comparaison avec les processions s'arrête là. Car pour les plus paresseux de nos écrivains marcheurs, la déambulation s'effectue sans idée préconçue, sans préjugés, sans être encadré. Nul itinéraire préétabli, encore moins de bannière, ni religion, ni croyance, ni mot d'ordre. Tout le contraire. Chez eux, la fantaisie est la règle. Mon choix est fait. Mon parti est pris. C'est davantage vers les tenants de la procession que vers ceux du pèlerinage que nous allons porter notre regard. Ralentir donc. Accepter et nous essayer à la patience. Seule une telle posture permet, je crois, de réhabiliter les paysages ordinaires. Car toute région, fût-elle à première vue ingrate, porte en elle, quoique modestement, une identité ou une spécificité paysagère. Petit éloge de la lenteur donc, voire de la douceur. Et en même temps, car elle va de pair avec cette dernière, incitation à la bienveillance et au respect envers tous les lieux, quels qu'ils soient. Il faut du calme, du temps, écrivait une géographe, du temps pour découvrir le Ségala. Alors seulement on voit les détails et la monotonie devient diversité. À propos de cette petite région de l'Aveyron, c'est un conseil tout simple, apparemment naïf, que l'on pouvait lire dans un manuel scolaire des années 1950.
Et alors ce Martin de la Soudière, il explique en fait aussi, en dehors de ses extraits, hein, de ce qu'il écrit, sa démarche.
Oui, voilà, il parle de sa démarche parce que lui-même, en effet, a vécu une enfance dans les Pyrénées et très jeune, il a commencé à marcher autour de la maison familiale. Il adorait ces petites marches. Et donc, il va revenir, en effet, dans un entretien, et je vais en lire quelques extraits parce que je trouve ça très beau, cette idée d'arpenter le territoire, arpenter le paysage. Et moi, le mot d'arpenteur me plaît beaucoup.
Mais oui,
aimé être arpenteur.
C'est un terme forestier, d'ailleurs.
Voilà, oui, tout à fait, c'est aussi un terme
gestion
forestier.
Forestière.
Et bien donc, l'arpenteur, voici ce qu'en dit Martin de la Soudière. Plutôt qu'une nouvelle célébration de la marche ou de la randonnée, très en vogue aujourd'hui, je propose une autre manière de pratiquer le paysage, loin de la morale de l'effort ou de l'idée qu'il faudrait en baver pour mériter le paysage. Un peu comme les petits tours que je faisais enfant avec mes parents et mes frères et sœurs dans les Pyrénées, nous bagnaudions, nous allions nifier, comme on dit en Basse-Normandie. C'était en l'arpentant sans relâche, en le piétinant, que nous fabriquions notre territoire. Arpenter, ce n'est pas forcément faire du surplace, mais marcher lentement, et rester dans les mêmes zones, les mêmes territoires, sans quête du lointain ou de l'aventure. Si on se rappelle l'étymologie, l'arpent est une unité de longueur, on peut ajouter une dimension technique, voire scientifique, avec l'importance de la mesure et du détail. En d'autres termes, l'arpenteur se consacre à un lieu. Parmi les meilleurs exemples, je pense à l'écrivain photographe Jean-Loup Trassard. Ce sédentaire parcourt chaque jour les espaces qui entourent sa maison de Mayenne, empruntant les mêmes petits circuits. Il dresse un inventaire, un état des lieux évolutif de ce qui l'entoure. Ici, un troupeau a disparu. Là, le bocage a évolué. J'aime l'idée d'épuiser un lieu. Beaucoup de gens sont tentés d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, de rechercher les hauts lieux. Épuiser un territoire demande plus de modestie, d'abnégation. Difficile d'en parler, d'en faire état. On est là dans le domaine de l'intime et du sensible. Il n'y a pas de carte postale à envoyer. C'est une question d'échelle et de vitesse. Personne n'a jamais traversé le paysage. On entre au contraire dans un paysage singulier. Entrer dans un lieu demande du temps, de l'attention.
Et d'autant plus qu'en en fait, on ne peut pas épuiser le territoire, puisque les saisons vont faire qu'il va de toute façon changer.
Et c'est ce qui fait qu'en effet, ces promenades que l'on répète sans cesse ne sont jamais les mêmes,
ah oui.
Exactement. Et moi, j'aime beaucoup quand même une idée là, qui défend, qui est l'idée que tout lieu où l'on vit, du moment qu'on le fréquente de façon assidue, continue, qu'on en parcourt les moindres routes, les moindres ruelles, les moindres sentiers, et bien ce paysage, ce territoire devient intéressant, il est le nôtre, et il nous touche, il nous plaît, et on s'y retrouve avec plaisir. Pas besoin d'aller loin. Et donc voilà, alors pour arpenter, comme le fait Martin de la Soudière, il faut des chemins. Et les chemins, ça appelle, en effet, l'appel des chemins. Et moi, je suis très sensible à la façon dont un chemin nous invite ou nous parle. Et donc, j'ai voulu, en une petite deuxième partie, parler de cette attraction irrésistible des chemins et le faire d'abord avec Jacques Reda, qui est donc un poète et qui est un merveilleux piéton. Alors d'abord de Paris et de la banlieue parisienne. Il a des textes superbes sur la banlieue parisienne qu'il a arpenté à la fois à pied, à vélo, en motocyclette. Mais il est aussi adepte du train et de ses lignes secondaires. Alors les lignes les plus lentes, comme dans le recueil Nouvelles impressions ferroviaires dont est tiré le poème que je vais lire, mais qui est un recueil réuni dans un livre édité chez Gallimard, Retour au calme. C'est tout un programme, hein, à la fois les impressions ferroviaires et le retour au calme, donc par le train et par les chemins, un retour au calme et à la lenteur. Et donc je vais lire un court poème qui s'intitule Chemin perdu. Pareil aux inquiets, aux longs velléitaires qui n'auront jamais su choisir un seul chemin, tous ceux que j'aperçois lorsque je passe en train, filé à travers bois, dans l'épaisseur des terres, me paraissent chacun devenir, tour à tour, celui que j'aurais dû suivre sans aucun doute. Je me dis, la voici, c'est elle, c'est la route certaine qu'il faudra revenir prendre un jour. Mais aussitôt après, sous la viorne et la ronce, un sentier couleur d'os ou d'orange prononce sa courbe séduisante au détour d'un bosquet. Et c'est encore un des chemins qui me manquait. Puis le bord d'un canal donne une autre réponse à ce perpétuel élan vers le départ. Mais je vous aime ainsi, chemin, désert et libre. Et tandis que les rails me tiennent à l'écart, vous venez vous confondre au réseau de mes fibres.
Moi qui aime le train, c'est beau.
Oui, voilà, ça donne, on vit souvent ça, hein, ces chemins qu'on aperçoit et on se dit c'est celui-là. Et c'est très métaphorique aussi de la vie. Hein, ces chemins, ça peut être aussi ceux de l'existence. On voit celui-ci, on le prend,
oui,
on ne le prend pas.
On a choisi.
Et alors, les chemins qui nous appellent, c'est aussi pour d'autres raisons chez certains. Alors là, je vais me rapprocher d'ici avec un poète breton qui vit en Finistère, dans le Léon, d'après ce que je d'après ses textes, Pierre Tanguy, qui a écrit beaucoup de petits livres, dont le dernier, La cueillette des murs, édité en 2021. Et il nous rappelle que suivre un chemin, c'est regarder, sentir, être attentif aux petites choses et ne pas rater murs et pommes oubliées. Et donc le glanage, le grappillage font vraiment partie au fil des pas du bonheur des chemins aussi pour ceux qui sont sensibles, n'est-ce pas ?
Oui, et quand on est gourmand, je plus sois.
Et quand on est gourmand. Et donc je vais dire trois passages de La cueillette des murs. Tout d'abord, le premier passage qui est vraiment cueillir le long du chemin. J'aime cueillir. Cueillir des murs, mais aussi des prunelles, des noisettes, des griottes, des petits prunes sauvages. Cueillir dans les jardins, des framboises, des cassis, des groseilles. J'aime aussi ramasser les châtaignes. On dit pas cueillir les châtaignes, on dit ramasser. J'aime aussi ramasser les pommes, on dit ramasser. Les ramasser dans l'herbe mouillée. Mais ce que j'aime avant tout, c'est cueillir des murs. Pas une année sans cueillette des murs. Pas une année sans boc de châtaigne écrasé sous le pied. Pas une année sans prunelle sur la langue. Mais oui, ce que je préfère, c'est la cueillette des murs. J'ai toujours cueilli des murs. À la volée, pour picorer, ou pour remplir des seaux, parce qu'on s'est dit qu'on fera des confitures. J'ai toujours cueilli des murs. Je suis du côté des femmes. Les hommes vont à la pêche ou à la chasse. Les femmes cueillent, recueillent, accueillent. Les murs ne demandent qu'à être cueillis. Les femmes l'ont compris. Elles le font sans effraction, sans violence. Elles cueillent. J'ai toujours cueilli des murs. Petites taches noires dans les talus. Je m'arrête, je les goûte. Parfois cela suffit.
Oui, puis ça donne un charme à la ronce qui n'est pas très sympathique.
Tout à fait. On aime les ronces lorsqu'on aime les murs. Et alors justement, après, au fil du texte, il va parler beaucoup des talus. Où sont les murs, justement. Et les talus leur renvoient des souvenirs d'enfance. Il cueillait avec sa mère, il cueillait avec son grand-père et sa grand-mère. Sur les talus où nous cueillons les murs, il y a des ajoncs, des noisetiers, des chênes bousculés par le vent. Il y a surtout des ronces. La faucille de grand-père n'est pas encore passée. Beaucoup de ronces mêlées aux fougères. Le talus est une caverne d'Ali Baba chargée de parfums et de remugles. On y trouve des grillons que l'on traque avec un brin d'herbe. Mais à la fin de l'été, ce sont les murs que l'on trouve. On cueille les murs avant la rentrée des classes. Cueillir des murs, c'est admettre la fin de l'été. Des vacances sous les grands nuages blancs. On a le cœur un peu serré. La cueillette est sobre, sans éclat. Les murs sont cueillis une par une. Pas de rapt, pas de gloutonnerie. Les nuages noirs nous dominent, nous sommes dans le Léon aux cieux si souvent bas, nous redoutons souvent l'averse avant la fin de la cueillette. Les murs s'affichent ou se cachent, les plus belles et les plus goûtées sont souvent à l'abri, sous une feuille de ronce ou sous une feuille de chêne. Comme un bon vin qui aurait vieilli en cave, il faut les dénicher, comme on ferait d'un nid de merle et de ses œufs mouchetés. Parfois il faut un bâton pour rabattre les ronces, grimper sur le talus pour mieux cueillir les murs. Au sommet on découvre des terrains inconnus, des vastes gisements de murs. Alors on bascule sur un autre versant, les yeux toujours émerveillés.
Et ça nous console de la fin de l'été, en effet.
Voilà, tout à fait. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup en cueillant les murs, que c'est la fin de la saison. Alors un petit dernier pour le chemin, dans lequel se reconnaîtront tous ceux qui marchent et qui ont oublié leur petit sac pour ramasser les murs. Partout des murs, tu les découvres au hasard d'une marche dans les chemins. Mais que faire sinon en picorer ? Pas un sac, pas un pot pour les recueillir. On s'en veut d'être parti sans prévoir cette découverte. On se dit qu'on repassera, peut-être demain ou après-demain, dans la hantise que quelqu'un soit passé avant vous. Oh, wow. Young man, got down, I never wanted to keep.
Une balade musicale, donc avec deux L, signée Cat Power, Wanderer Exit. Donc c'est le choix d'Antoine Logini qui nous balade, mais par la littérature, par ses impressions de géographe au cours de ses promenades. On était sur Pierre Tanguy, voilà, dans le bocage.
On était dans la cueillette des murs, on va retourner au bocage. Un mot juste, très bref, sur Cat Power. C'est vrai, j'aime beaucoup cet album qui est 2018. On dit que c'est un album de la maturité. Alors, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, hein, c'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai que c'est un album très simple, très sobre. Et on sent vraiment sa personnalité. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi, allait bien avec la marche contemplative. Une espèce de mélancolie aussi qu'on a quand on marche. Et le titre, hein, qui veut dire « vagabond errant ». Voilà, c'est pas le même marcheur, exactement, sans doute. Donc voilà, Pierre Tanguy nous a ramené par ici, du côté du bocage breton, de ses talus et de ses chemins creux bordés de haies vives. Et c'est vrai, comme au Plomard à Douarnenez ou dans la haute vallée du Goyen, où j'aime aussi marcher, le bonheur des chemins de la promenade née au vent est pour moi accru là où le bocage a été conservé. Le bocage nous ouvre tout un monde de vert, de lumière et d'ombre, de mousse et de fougères et de pépiments d'oiseaux. Et c'est vraiment une richesse fantastique de tous les creux du paysage breton, ce qu'il en reste en tout cas. Et j'ai cherché des textes, je voulais lire des textes autour des chemins et du bocage, et en fait c'est très difficile d'en trouver. Donc je lance un appel aux auditrices et aux auditeurs, si certains ont des textes qui leur paraissent riches sur le bocage breton, je suis preneur.
Oui, écrivez-les.
Écrivez-les, parce qu'en effet, moi j'ai fait un pas de côté, je suis allé en Normandie,
pas si loin. Admettons.
Dans le Pays d'Auge, avec Gilles Joannard, qui est un écrivain expert en rêverie paysagère. Gilles Joannard est montpelliérain, donc lui il vient vraiment d'un autre type de territoire, mais il s'est baigné peut-être d'une résidence dans le Pays d'Auge, dans un monde d'eau et de verdure habité par la pluie. Et le titre du recueil de textes s'intitule « L'œil de la terre », et ça c'est tiré de Gaston Bachelard, le philosophe de l'eau et des rêves, qui a écrit « L'œil véritable de la terre, c'est l'eau ». Je vous laisse méditer là-dessus.
Oui, en effet.
Et donc voilà, Joannard a des textes où il parle du labyrinthe du bocage, du plaisir d'y marcher, de se dissoudre dans le végétal. Premier texte, « L'esprit de la haie ». Ces haies, on le voit bien, ont pour principale fonction de couper le vent et de protéger ainsi les cultures car rien suffit parfois à menacer. Elles réussissent de façon satisfaisante dans leur entreprise, protégeant effectivement les cultures, mais aussi le cultivateur, sans négliger le simple promeneur qui, à l'abri des bourrasques prédiluviennes, peut de surcroît prendre un plaisir esthétique, si ce n'est vaguement métaphysique, à voir les éléments s'agiter dans les branches, leur arrachant une chorégraphie de derviche tourneur et rappelant à la terre, muette de pressentiment, la force immaîtrisable du ciel. Une faune multiraciale et polyspécifique, rampante, sauteuse, volante, trotteuse, gigoteuse, suceuse, broyeuse, déchiqueteuse, s'y tapit ou n'y fait que passer, bouge sans cesse, s'arrête soudain ou brusquement prend fuite dès que le pas de l'homme fait vibrer le sol du chemin. C'est ainsi que la vie qui s'y déroule nous échappe tout à fait. Même si l'humain n'y a point part, on doit pouvoir parler d'un esprit de la haie, monde en soi, où la vie de certaines espèces s'accomplit, probablement en entier, tandis que d'autres y viennent se nourrir de baies, de larves ou d'animaux à plumes et à poils. L'homme qui l'a plantée peut la détruire en quelques heures. Il dispose à cet effet de machines perfectionnées. Il ne peut en revanche ni y vivre, ni en comprendre tout à fait la vie interne. Au demeurant, songe-t-il un seul instant à s'en préoccuper ?
Ah oui, ça c'est pas mal vu, qu'on ne peut pas y vivre, on n'aime pas en fait ce qui nous échappe, voilà, la haie nous échappe.
On aime s'y baigner, on n'aime pas y vivre, on ne saurait pas y vivre, et puis c'est peut-être une des raisons pour laquelle on l'a largement fait disparaître. Et aujourd'hui encore, le bocage a du mal à se maintenir.
Il y a des chemins pour découvrir le bocage.
Alors, il y a des chemins pour découvrir le bocage, je vais lire un texte court justement sur un chemin qui s'écarte de la route. Le chemin qui s'écarte brusquement de la petite route signant entre Chefville et Livarot, quitte le grand paysage ouvert pour intérioriser son œuvre musicale dans l'ombre d'une voûte aux essences entrecroisées. C'est à peine si à gauche et à droite, l'on peut entrevoir le colombage vieilli du mur d'une ferme aux airs désaffectés ou le museau de cette vache immobile contre une barrière encadrée par des noisetiers. L'habitant principal de cette ancienne voie d'exploitation, c'est le silence, renforcé par les efforts culinaires d'un pivert ou par le discours amoureux d'un oiseau dont l'envol fait vibrer les feuilles des coudriers et des peupliers. Le vent de mer qui passe sans bruit parmi les nuages trouve sous ce tunnel chlorophyllien l'occasion d'enrichir d'une basse obstinée les sollicitations de cette musique ambulante. L'on s'y enfonce progressivement dans l'oubli végétal, fait de réminiscences olfactives, de vibrations infimes et d'arrière-goût.
Ah oui, alors là, tous les sens sont convoqués, y compris l'ouïe, bien sûr.
Tout à fait. C'est vrai que le bocage, c'est ça, c'est un éveil des sens très fort. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression de se dissoudre dans le végétal, dans le vert. Alors, s'il y a pas mal d'auteurs qui ont célébré la simple promenade, la marche, que ce soit dans le bocage ou ailleurs, je voudrais terminer cet éloge de la promenade par l'évocation d'écritures véritablement nourries de marches autour de la maison. Alors, il y a plusieurs auteurs. Moi, je pensais au départ au poète Philippe Jacotet, qui a vécu de 1954 à sa mort en 2016 à Grignan, dans la Drôme, et dont il parcourait les collines voisines, souvent très tôt le matin, pour des marches méditatives dans ces paysages où il n'a cessé de revenir toute sa vie. Lui qui écrivait: même sédentaires, même casaniers, nous ne sommes jamais que des nomades. Le monde ne nous est que prêté.
Oh, ça c'est super, ça.
C'est vraiment, c'est vraiment très
bien
juste.
Dit.
Voilà.
Ouais.
Et je pense aussi à un autre auteur que j'aime, Joël Vernet, autour de Saugues, son village natal en Margeride. Lui dont le titre d'un recueil porte le titre magnifique « Marcher est ma plus belle façon de vivre ». Et un autre carnet du Long Chemin qui fait écho au carnet du Grand Chemin de Julien Gracq. Ces chemins qu'il parcourt aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère sont des chemins de l'écriture, une écriture poussée par ses pas. Mais en fait, j'ai choisi de citer un autre de ses auteurs, René Frény, dont les paysages habituels nous entraînent loin du bocage, par les chemins qui montent au-dessus de Manosque, la ville où il vit, et où il va se perdre sur les plateaux de Haute-Provence. Et dans ses livres, la marche est toujours là, glissée dans le fil du quotidien. Je vais lire deux passages de René Frény, d'un de ses derniers livres, « Je me souviens de tous vos rêves », où René Frény dit vraiment le lien essentiel qu'il y a entre ses promenades, qui lui sont absolument nécessaires, au même titre que l'écriture. Les deux lui sont absolument vitales. Septembre. Chaque année, en septembre, j'ai peur de mourir. Alors j'achète un cahier. J'ai peur de mourir depuis l'âge de 5 ans, tous les jours, à chaque heure du jour et encore plus au milieu de la nuit. En septembre, c'est beaucoup plus cruel. C'est si beau, septembre, si limpide, si bleu. Chez nous, ici, c'est le plus beau mois de l'année. Ce n'est pas un mois, c'est un fruit. L'après-midi, je vais au bord des rivières, cueillir des mûres sauvages. À travers les infranchissables ronciers, j'entends les derniers cris d'enfants qui glissent dans le courant sur de noires chambres à air de tracteurs. Ils sont libres comme l'eau verte qui file entre les roseaux, aussi sombres que le caoutchouc, où ils s'agrippent de tous leurs ongles, encore immortels. Les ronces déchirent mes bras, mes mains. Je suis vivant. Je suis vivant parce qu'un cahier m'attend, vierge encore, blanc. Il est posé sur la table de ma cuisine et il m'oblige à être vivant. Il m'attend comme un enfant. Je ne lui apporte que les mots d'une mère à son enfant. Il a besoin de moi pour se mettre à vivre. Un jour, je ne serai plus là pour sentir sur ma peau toute la beauté de septembre, son immense douceur, tous les mots que je trouve en marchant sur les galets brûlants des rivières ou dans la poussière des champs. Après le 15 août, les amandes s'ouvrent et tombent au bord des chemins. Septembre est le mois des amandes, des noisettes, des noix. On n'a qu'à s'asseoir sur les talus et les casser entre deux pierres ou remplir ses poches et les ramener chez soi comme un écureuil. Je connais toutes les ruines des collines, les bergeries abandonnées, le tas de pierres d'un ancien pigeonnier, chacune à son figuier. Je suis le voyageur de septembre, je saute d'une ruine à l'autre, et dans la chaleur de ces longs après-midi de fin d'été, j'ouvre avec mes deux pouces ces fruits bouillants. 1000 graines d'or scintillent dans un sucre pourpre. C'est comme ça que j'écris maintenant, maintenant que je vis seul, maintenant que je vieillis. J'écris dans des ruines, à 3 heures de l'après-midi, dans l'immense silence bleu des collines. Chaque jour, je prends la route, n'importe quelle route, comme on ouvre un cahier neuf. J'écris un mot, je fais un pas. Au pas suivant, j'attrape un autre mot, puis un autre. C'est sans fin une route, comme les mots qui laissent une trace de passe dans la clarté de la page. Si vous écrivez un premier mot, les pas vous emmènent dans un monde où les songes n'ont pas de fin. Donc voilà pour l'écriture. Et puisqu'on a juste le temps...
Oui, on a le temps.
On a le temps pour terminer. Un deuxième texte de René Frény où il insiste, il revient sur cette idée. Mais là, il va parler aussi de ces marches qui, malgré la dureté du monde, lui font voir toujours retrouver la beauté du monde. Il m'arrive souvent de partir le matin vers des collines que je vois de ma terrasse et qui m'apportent en été l'haleine brûlante de la résine. Pour sortir de cette ville ronde, je passe sous une tour dont l'œil blanc d'une horloge surveille une rue rétrécie de cagettes de légumes, de guéridons de bistrot et de cartes postales. Je suis tout de suite dans des petits vergers qui grimpent en terrasse vers des pins d'Autriche. Octobre donne ses premiers coups de pinceau rouge sur les plus hautes branches des cerisiers. Je frôle une ferme tapie dans l'ombre d'or de trois tilleuls et je suis seul sur la pierraille des collines, dans l'odeur des cades, du thym et du genévrier. Sur tous les chemins, je cueille des petits éclats de lumière. Je marche et je cueille la beauté. Ceux qui font couler le sang n'ont pas rencontré la beauté. Je ne les condamne pas, je les plains. Nous avons besoin du bruit des feuilles sous nos pas, de l'odeur du genévrier, du buis, de la danse de l'eau sur les pierres qui affleurent autour des vieux moulins. Il faut partir au milieu des arbres et regarder, partir à l'heure où pâlissent les clochers, voir s'allumer à l'est les grands oiseaux verts du ciel dans l'encre de Chine des nuages. Lever les yeux vers la cime ocre rouge des pins, traverser des forêts de chênes, d'ifs, de hêtres, d'érables, de tilleuls et de sorbiers. Caresser en passant du bout des doigts l'écorce dure des chênes, la peau douce des bouleaux et des jeunes peupliers. Pénétrer dans les forêts endormies sous la chaleur de l'été, les clairières pourpres d'octobre, les étroits vallons que janvier peuple d'ombre glacée des 3 heures de l'après-midi. Longer des champs de pierre et de lavande, filer d'amandier en amandier vers de sonores éboulis où ne se risquent que les sangliers, retrouver une route qui s'ennuie, s'endort dans un virage, traverser des hameaux déserts, contourner des châteaux habités par des morts, faire hurler un chien dans la cour d'une ferme, enjamber les troncs pourris des pins que les tempêtes ont arrachés et qui exhibent les mains ouvertes de leurs racines, déboucher sur un champ où le vent froisse les manuscrits desséchés d'un vieux maïs, déranger 3 corbeaux qui s'éloignent en grinçant, voir venir de la mer les grands orages noirs, courir s'abriter sous un porche de pierre, la tôle rouillée d'un appentis adossé à un hangar qui sent l'huile de tracteur, le raffia et la poussière, repartir à travers des bois trempés qui fouettent d'eau votre visage, rentrer à travers quelques champs que la lune blanchit comme s'il neigeait, marcher en rêvant et cueillir partout la beauté.
C'est beau et puis c'est très animiste en plus. La route s'ennuie.
C'est tout à fait. Et puis on retrouve, alors en fait, il y a une certaine parenté entre René Frény et Jean Giono dont on retrouve l'esprit, ce lien très fort à la nature, l'exercice nécessaire de tous les sens en fait. J'avais lu un extrait dans une autre émission de Rondeur des jours et on sent que Frény est quelqu'un d'angoissé, d'inquiet, mais à travers ses marches, il va chercher sa rondeur des jours, celle qui peut le tenir encore debout, quoi. Voilà, alors on ne reste plus qu'à souhaiter à chacun d'entre nous de trouver ses chemins de prédilection. Ils ne sont pas forcément loin, on en a, et de les partager à d'autres. Et puis après, ce qui est chouette aussi, c'est que ces chemins bien réels, ils ouvrent vers des chemins intérieurs. Et c'est ça la vraie réalité.
C'est ça, et on peut donc réécouter toute cette belle saison de géographie littéraire d'Antoine Legini. Merci Antoine. On va se séparer là-dessus, on va se souhaiter de bonnes vacances et puis on se reverra peut-être sur d'autres projets radiophoniques très bientôt.
On verra.
On verra.